Votre essai « Entre le monde et moi » est à sa deuxième édition en français. « La colère noire » était le titre de la première édition. Pourquoi avez-vous senti le besoin de changer le titre ?
Alors tout simplement parce que je me suis rendu compte que la colère n'est pas le sujet ici. La rage, la colère sont des clichés qui envahissent les écrans chaque fois que les médias parlent des Afro-Américains. Or moi, quand je pense à mes parents, à mes frères et sœurs ou à mes amis, ce n'est pas la colère qui me vient à l'esprit, mais plutôt leur peur, leur sentiment de vulnérabilité. Il me semble que la peur est le privilège des Blancs. Pourquoi ne part-on jamais de nos peurs ?
Comment est née l'idée de ce livre ?
Je n'avais pas encore tout à fait 25 ans quand mon ami Prince Jones a été tué par un officier de police. Il a eu le malheur d'être pris pour le dealer de drogue qu'apparemment le policier traquait depuis quelque temps. Depuis cette tragédie, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un comme Prince, qui venait d'une famille respectable, pouvait finir comme il a fini. Il se trouve que c'était aussi l'époque où mon fils venait de naître. J'étais rongé par la culpabilité de le voir grandir dans un monde gangréné par la violence raciste. D'une certaine façon, on peut dire que la coïncidence de ces deux événements a été le point de départ de ma prise de conscience politique. Entre le monde et moi est une réflexion sur la mort de Prince Jones, mais c'est aussi le récit de ma quête de frontière morale entre le bien et le mal.
Vous écrivez, dans ce pays, annihiler le corps noir est une tradition, et cette tradition fait partie du patrimoine national. Que vouliez-vous dire ?
Cette déclaration résume ce que je retiens de mes lectures des historiens et des penseurs noirs. Je pense notamment à Frederick Douglass, né esclave au début du 19e siècle dans l'État du Maryland. L'homme était un autodidacte. Il a dû bricoler sa philosophie en s'arrachant à la vision du monde que lui avaient imposé les esclavagistes. Rien n'a changé depuis l'époque de Douglass pour les Noirs, qui veulent penser pour eux-mêmes, en s'arrachant à l'emprise de la pensée dominante. Qualifié du nom méprisant de « wokisme » en France, cette démarche des opprimés pour se réapproprier le monde dérange. Elle est perçue comme une menace par l'establishment, justement parce qu'elle propose une vision concurrente du monde et du vivant.
Non moins dérangeante est votre affirmation dans votre essai que la race naît du racisme et non le contraire. Rappelez que la race, c'est une construction sociale, a dû vous attirer des soucis dans votre pays en cette période de suprémacisme montant.
Oui. Voyez-vous, la définition de race change suivant les époques et les pays. En Amérique, la perception qu'on a de l'homme noir a été déterminée par les impératifs de l'esclavage et le besoin qu'avaient les planteurs de disposer de cette main-d'œuvre corvéable. À merci. Ils ont donc défini la négritude selon un très large éventail de couleurs de peau. L'histoire afro-américaine abonde en personnalités qui étaient génétiquement autant africaines qu'européennes, parfois peut-être plus européennes qu'africaines. Mais aux États-Unis, dans la classification des populations par origine ethnique, elles sont classées parmi les Noirs.
Diriez-vous que l'administration Obama a traité la question de race avec une plus grande compréhension que les administrations précédentes ?
Non, je ne le crois pas. Dans ses déclarations publiques sur les Noirs, le président Obama se permettait des réflexions que ses prédécesseurs blancs n'auraient jamais osé soutenir. Il estimait par exemple que c'était aux familles noires d'assumer la responsabilité du sous-développement de leur communauté. Selon moi, si l'Amérique reconnaissait réellement sa dette envers sa population noire, on verrait en l'espace de quelques décennies la communauté afro-américaine s'épanouir.
You would see us, flower in all of the beauty that we want all human beings to have the right to.